Tout pour investir, la place de l'IMO.
C'est l'heure de l'IMO, comme tous les jours dans Tout pour investir. Il faut évidemment avoir le regard de Marie sur ces taux qui bougent, qui frétillent. Qu'est-ce qu'il faut dire comme verbe là?
Il faut dire que ce qu'on dit depuis 3 mois, effectivement c'est confirmé. On a eu les chiffres de Crédit Logement CSA en fait qui ont été publiés hier et qui nous disent quoi? Ces chiffres qu'en mars on a atteint 3,82% précisément de taux d'intérêt moyen sur 20 ans. On est à 3,9 toute durée confondue. Donc on est repassé clairement sous les 4%. Même sur les crédits longue durée, c'est assez intéressant. Si on regarde les crédits au-delà de 25 ans, vous avez les 3/4 des emprunteurs à date qui empruntent sous 4% sur des crédits au-delà de 25 ans. Donc ça vaut le coup d'être souligné. Après, il faut quand même un tout petit peu relativiser cette baisse de taux. D'abord parce que effectivement, elle n'est là que depuis 3 mois. Ensuite, malgré tout, bon an, mal an, on est quand même toujours pas très loin des 4%. Et je rappelle qu'il y a 3 ans, on était à 1%. Donc on a des taux qui ont quasiment quadruplé en l'espace de 3 ans. Donc c'est un petit peu mieux qu'en fin d'année dernière. C'est pas la panacée non plus. Il n'empêche, on a une reprise aussi de la production de crédit. Parce que forcément, qui dit assouplissement du côté des taux d'intérêt et aussi de l'apport personnel, faut le dire quand même. Les banques continuent à réclamer de l'apport, c'est vrai, mais moins qu'avant. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a plus de crédits qui sont distribués. Alors, d'un trimestre sur l'autre, c'est assez spectaculaire. Forcément, si je regarde le dernier trimestre 2023, qui était cataclysmique par rapport à ce premier trimestre 2024, là, on a une hausse du nombre de prêts accordés de plus de 46%. Mais si je regarde sur un an, on est encore en nette baisse d'environ 20%. Donc on va relativiser, c'est-à-dire que c'est un frémissement, c'est le début du rebond, on va le dire comme ça. Maintenant, le vrai problème, ça va plus passer du côté des crédits, et je le dis depuis assez longtemps, c'est-à-dire que ce qui a été problématique l'année dernière, c'est la rapidité de la hausse des taux. C'est pas le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, il va falloir s'accoutumer de ces taux autour de 3-4%, peut-être qu'on descendra autour de 3,5%, peut-être 2,5%, mais des taux à 1%, a priori, sauf 4%, catastrophe majeure à l'échelle internationale, c'est pas prêt de revenir. Donc les taux, il faut les assumer maintenant tels qu'ils sont et faire avec. En revanche, il y a un vrai sujet du côté des prix de l'immobilier. Sur l'ancien, il y a un vrai sujet de conviction des vendeurs qui pensent encore qu'on peut faire comme avant. Ce n'est plus le cas. Il va falloir qu'ils acceptent de baisser leurs tarifs. Je dis à ceux qui pourraient me critiquer que ceux qui ont payé ultra cher en 2021, c'est pas les plus nombreux à vendre aujourd'hui. Oui. Donc ceux qui vendent aujourd'hui, c'est quand même des gens qui vont quand même faire une plus-value, peut-être moins importante que s'ils avaient vendu en 2021, mais ils vont quand même faire une plus-value. Et on leur rappelle que souvent, quand ils vendent un logement, c'est pour en racheter un autre. Donc, ce qu'ils vont baisser du côté du tarif de ce qu'ils sont en train de vendre, ils vont peut-être l'obtenir aussi de ce qu'ils vont racheter derrière. C'est ce qu'on appelle la fluidité du marché et retrouver un tout petit peu raison dans ce marché immobilier.
Voilà le regard de Marie Cœur de Roy sur l'orage qui s'éloigne doucement, on espère sûrement, du crédit immobilier. Pour parler justement de ces achats dans l'ancien et de globalement investir dans l'immobilier résidentiel, nous accueillons notre invité Marie, Stéphane Imovitch. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes président et directeur général du groupe Icori. Votre regard peut-être sur cet état du marché. Et avec vous, on va essentiellement parler du résidentiel. Alors donnez-nous le pouls de ce marché résidentiel.
Le marché résidentiel, effectivement, comme Marie l'a dit, est un marché qui souffre depuis un an et demi, lié à la remontée des taux. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique n'est pas tant le niveau des taux, puisqu'on a connu des taux bien supérieurs. Je me souviens d'il y a à peu près 12-13 ans, on était à des taux qui étaient proches de 8%. Et c'est plutôt la rapidité. Et je pense que la rapidité, c'est un sujet parce que finalement, que ce soit 4%, que ce soit 8%, que ce soit 1%, la problématique, c'est la solvabilité des ménages. Et donc, la solvabilité des ménages, aujourd'hui, elle va se faire, bien sûr, par un atterrissage sur les prix. Donc, on commence à sentir un atterrissage sur les prix, qui, dans certains cas, peut être relativement significatif. Cet atterrissage sur les prix, il est doublé par la problématique des diagnostics de performance énergétique, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les DPE rentrent fortement en considération dans l'élaboration d'un prix d'appartement ou de maison.
Et plus on avance, plus il compte. C'est-à-dire, plus l'échéance des interdictions des passoires thermiques à la location approche, plus les décotes sont importantes sur les biens les plus mal notés.
Absolument, vous avez totalement raison. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on peut trouver des décotes de 10, 15, voire 25% sur les biens les plus mal notés. Alors la problématique, c'est bien sûr une problématique de prix de vente, mais la problématique derrière, c'est la problématique du locatif. Parce qu'il est bien évident, je voudrais rappeler quand même un point qui est important, 90% des bailleurs sont privés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des institutionnels,
c'est gentil
ce sont
de le
les
rappeler.
Particuliers.
C'est gentil de le rappeler.
Et les particuliers, bien évidemment, sont souvent, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont tendance à penser, ce ne sont pas des rentiers, ce sont des gens qui sont des vrais bailleurs, ce sont des gens qui ont envie de mettre en location leurs biens parce que c'est un complément, notamment pour leur retraite.
Et oui, on pense à tous les retraités bailleurs. Il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Louis, qui vous a écrit, Marie, et qui parle de racket fiscal sur les retraités bailleurs.
Effectivement, comment vont faire ces bailleurs privés qui sont souvent des gens relativement modestes, comment vont-ils faire pour pouvoir financer ces travaux, parce que très souvent ce sont des biens qui sont mal notés et s'ils sont mal notés, ils ne vont plus pouvoir les louer.
Et c'est ce que j'allais dire, avant que ce soit une problématique locative, comme vous avez dit, entre les deux il y a une problématique travaux, réalisation de travaux, budget de travaux, et donc c'est une couche de plus dans le sandwich.
C'est une couche de plus dans le sandwich.
En même temps, les gros sandwichs c'est très bon, mais...
et en parallèle, il faut savoir que les travaux, quand vous faites passer un bien de G pour le faire passer à D,
quand vous tentez de passer de G à D,
tente de G à D, il faut compter entre 40 et 50 000 euros pour un logement de taille intermédiaire. Donc c'est un coût très important. Alors quand on est les investisseurs institutionnels, ils ont déjà réalisé très souvent les travaux, donc il n'y a pas de problématique pour ce type de bailleur. En revanche, les particuliers, c'est un vrai souci. Et ça, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience, faute de quoi on va se retrouver vers une crise du locatif comme précédent.
On y est déjà. Hein, quand on regarde, juste vous vous baladez dans les villes tendues, je pense à Paris, mais pas que, où il y a des marchés locatifs qui sont nés, même dans des villes un peu plus moyennes ces dernières années, et que vous voyez les devantures des réseaux d'agences immobilières avec écrit « on n'a pas de bien à louer », il y a quand même un vrai problème. Mais bon, bref. On parle de l'ancien et des problématiques de l'ancien. Comment ça va du côté du neuf?
Côté du neuf, la problématique est encore plus difficile, si je puis dire. Ne serait-ce qu'on n'a qu'à voir qu'au cours de l'année 2023, les ventes ont baissé de 37%. Alors qu'au cours de l'année 2023, toujours, mais sur l'ancien, on n'est qu'à 27%. Donc,
J'aime bien faire de la pédagogie. Vous le savez, Marie est une pro de l'immobilier. Vous aussi, cher Stéphane. Mais l'ancien, là, pour ceux qui nous écoutent, qui suivent cette séquence au quotidien, qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous un petit peu.
L'immobilier ancien? Ben, ce sont des appartements qui ne sont pas neufs, des biens qui ne sont pas neufs.
A priori, qui sont sortis de terre depuis au moins 5 ans, on va le dire comme ça.
Ils sont sortis de terre depuis au moins 5 ans. Alors ensuite, on fait la distinction entre le récent, le neuf, l'ancien. Mais disons que l'ancien, c'est le patrimoine classique que l'on peut voir un peu partout dans les villes, et souvent ancien, qui nécessite des travaux, bien évidemment.
Et cette définition changera peut-être quand il n'y aura plus aucun neuf qui sortira du sol.
Oui, mais ce sera assez dramatique, parce qu'en l'occurrence, faire du neuf, c'est aussi faire du performant énergétiquement, compte tenu de la réglementation.
Exactement.
C'est aussi ça qui est assez dramatique. Mais justement, sur le neuf, on a l'impression quand même que malgré tout, à chaque fois, je tire sur les vendeurs d'anciens, mais on a le sentiment quand même que l'ajustement à une phase compliquée est plus simple dans l'ancien que ça ne l'est dans le neuf, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui, il est plus simple parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que les promoteurs ont très souvent acheté des fonciers à des prix extrêmement élevés. C'est le premier point. Deuxième point, les promoteurs ont des coûts de fabrication de l'immobilier beaucoup plus élevés compte tenu des normes. Donc ce double facteur a un impact très fort, et donc très souvent ils ont difficulté à baisser leurs prix véritablement, faute de quoi ils perdent énormément d'argent.
Là, ce qu'on voit quand même, parce que j'avais appelé il y a quelques semaines un spécialiste de cet immobilier neuf qui me disait c'est la foire fouille. Vous allez sur tous les sites de promotion immobilière, c'est je t'offre 5 000 euros, 20 000 euros par pièce, je t'offre les frais de notaire, je compense les avantages qui disparaissent sur le Pinel, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est symptomatique de cette crise sans précédent là, pour le coup, que sont en train de traverser les promoteurs immobiliers?
Je pense que les promoteurs traversent une crise sans précédent. Pour les raisons qu'on a évoquées, parce que aussi il faut savoir que le foncier reste très cher, et aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de promoteurs préfèrent renoncer à des acquisitions de foncier tout simplement parce que les vendeurs ne sont pas prêts à baisser le prix du foncier, et donc on va se retrouver dans une situation dramatique, et dramatique surtout dans les années à venir, parce que les promoteurs ne vont pas construire, ne vont pas acheter de foncier, donc ne vont pas construire, et donc on se prépare une crise du neuf encore pour plusieurs années.
Mais faut faire quoi? Parce que c'est vrai qu'on fait ce constat quasiment quotidiennement dans l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la machine, en fait?
Ce qu'il faut faire pour relancer la machine...
Relancer un Pinel.
Je suis pas sûr que ce type d'approche soit suffisante. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut inciter des bailleurs à revenir sur le marché. Alors, ça passe par les bailleurs institutionnels, bien évidemment.
Ça, pour le coup, on peut pas dire que le gouvernement n'est pas là.
Oui, sur le logement, alors notamment sur le logement intermédiaire, parce qu'on a besoin énormément de logements intermédiaires. J'écoutais ce matin le fait que en matière de logement HLM, un député a souhaité que ce soit plutôt dédié à un certain nombre de fonctionnaires. C'est une bonne chose.
C'est déjà le cas, hein, ce qui est ça qui est assez
alors, terrible. C'est déjà le cas, mais pas complètement. Hein. J'ai travaillé dans une société de logement social et je voyais comment les attributions se faisaient. Donc c'est pas uniquement sous cette forme-là, mais il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un statut pour les bailleurs qui soit un statut pérenne avec une fiscalité pérenne et pas des mesures qui sont des à-coups en fonction du nom du ministre du logement en question.
Donc vous dites de la stabilité.
Ouais, donc vous dites non mais je rejoins ce que la question que posait Lorraine, c'est-à-dire vous dites plus de Pinel dédié au neuf, mais un statut du bailleur privé qui concernerait à la fois ceux qui achètent pour investir dans le neuf et à la fois ceux qui achètent pour investir dans l'ancien.
Absolument.
Ce serait quoi pas... Ce serait, par exemple, typiquement à la performance énergétique, qui pourrait concerner
ça
aussi pourrait bien le neuf que de la rénovation
énergétique. Ça pourrait être une modération dans les loyers. Mmh. On peut très bien assortir ce type de statut avec une modération dans les loyers.
Ça existe déjà, ça
Ça existe pas de manière aussi claire. Et puis, ça peut être aussi selon la durée du bail. Aujourd'hui, un particulier peut faire des baux pour 3 ans. Un institutionnel fait des baux pour 6 ans. On peut très bien imaginer des baux long terme, ce qui permettrait aussi de sécuriser les locataires.
Bien sûr, et qui éviterait justement les bifurcations sur du meublé courte durée, etc.
Absolument. Et alors, là aussi, on s'aperçoit que le fait qu'il n'y ait pas une vraie politique du logement en France fait que, naturellement, on se retrouve avec tous les effets pervers que l'on peut trouver, et notamment les baux civils, à des prix absolument démentiels. Donc, aujourd'hui, il faut prendre en considération, je reviens sur cette notion, le bailleur privé n'est pas un rentier, le bailleur privé est un élément économique qui va permettre de favoriser le locatif en France et il doit être assorti de conditions. Ça peut être des conditions de loyer, ça peut être des conditions de durée, ça peut être des conditions sur le plan énergétique et c'est tout ce qu'on essaie de proposer au pouvoir public actuellement.
Bon, et donc, d'ici qu'on obtienne ça, parce que moi j'y crois même plus, je suis un peu négative,
mais statut du bailleur privé.
D'ici qu'on obtienne un statut du bailleur privé, qu'on ait une vraie politique du logement, tout ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ? Est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien ? Est-ce que c'est encore le moment d'investir ?
Alors, je pense que c'est un moment intéressant pour investir. D'abord, vous le soulignez, baisse des taux. On arrive à des niveaux de taux qui sont tout à fait compatibles. Baisse des prix également. Les prix commencent à baisser. On s'aperçoit, globalement en France, les prix ont baissé de 4%. Mais si on regarde les zones tendues, et je pense à la région Île-de-France et notamment Paris, on est sur des baisses de prix beaucoup plus significatives. Mmh. On arrive à 9% de baisse de prix. C'est-à-dire qu'on est passé en dessous de la barre des 10 000 euros sur Paris. On est à 9 600 ou 9 700 euros le dernier trimestre. Et là, on va passer vraisemblablement à 9 400 euros. C'est ce que la Chambre des notaires nous indique. Donc, il faut retrouver une certaine solvabilité. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut profiter justement du fait qu'on a des logements qui ne correspondent pas aux normes, faire des travaux, pouvoir déduire les travaux, etc., etc. Donc, on est dans un moment tout à fait intéressant. Et on est dans un moment intéressant pour l'ancien. On est dans un moment qui commence à être intéressant pour le neuf, puisque un certain nombre de promoteurs assortissent les ventes avec quelques avantages.
La foire fouille, comme dirait Marie.
Voilà. Et puis enfin, il y a aussi toute la vente des lots occupés. Et la vente des lots occupés, ça peut être très intéressant parce que...
Un logement dans lequel j'ai déjà un locataire.
Un logement dans lequel déjà j'ai un locataire. Je peux mesurer la fiabilité du locataire. J'achète un peu moins cher qu'un logement libre et je perçois des revenus immédiatement.
Voilà, on a apporté quelques éléments de réponse à la question est-ce que c'est le moment, le timing est-il le bon pour concrétiser vos projets d'investissement que peut-être vous avez mis de côté pendant de longs mois, pendant peut-être quelques années, si vous sentez que vous avez raté la fenêtre des taux à 1%. Et où est-ce qu'il faut attendre encore plus de baisse de prix ? Voilà, on vous a donné des éléments de réflexion. Maintenant, à vous de passer à l'action. Merci Marie Cœur de Roi. Merci beaucoup Stéphane Imovic du groupe Ikori, que j'appelle pour ceux qui nous écoutent. I-K-O-R-Y.